Bonjour à tous, bienvenue dans cette grande table du vendredi. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment l'amour est-il devenu un marché ou pourquoi l'a-t-il toujours été? On en parlera avec notre invité, le philosophe belge François de Smet. Il signe Eros Capital, les lois du marché amoureux aux éditions Climat. Il sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, chaque année, on attend avec impatience le nom du lauréat du prix Pulitzer qui parvient toujours à trouver des pépites. Et cette année encore, nous n'avons pas été déçus avec les tribulations d'Arthur Mineur, lauréat donc du Pulitzer Fiction, qui paraît en France aux éditions Jacqueline Chambon, traduit par Gilbert Cohen-Solal, cinquième roman d'Andrew Schoengreer, dont l'avant-dernier, Les vies parallèles de Greta Wells, serait en cours d'adaptation avec Madonna à la réalisation. Il sera demain à la Maison de la Poésie à Paris pour une rencontre à 18h, mais pour l'heure, Andrew Schoengreer est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Arthur Mineur n'est pas un être mineur. Arthur Mineur n'a qu'une idée en tête, fuir le mariage de son ex-compagnon avec un autre. De ne pas être témoin de ce nouvel échec amoureux après sa dure séparation avec Robert. Ne pas être l'homme qui ne sait pas garder ses amants, en plus d'être déjà un écrivain moyen. Alors il va prendre l'avion, partir pour New York, Berlin, Paris, faire une escale en Suisse, passer par le Sahara, l'Inde, loin en tout cas, tout ça loin de San Francisco. Et nous allons le suivre, suivre ses tribulations, celles de ce drôle de personnage sur près de 300 pages, candide et maladroit, qui possède de la malchance dans tout ce qui ne compte pas, de la chance dans tout ce qui compte, partir avec lui dans un périple littéraire et sentimental. Bonjour à vous, Andrew Schoengreer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci à votre voix française et bonjour à elle, Marguerite Capelle.
Bonjour.
Les prix littéraires, Andrew Schoengreer, ce n'est pas de l'amour, voilà ce que dit l'un de vos personnages à Arthur, mais c'est quand même une forme de reconnaissance. Est-ce que ce prix Pulitzer, vous pensez, comme votre héros, l'avoir obtenu sur un malentendu?
Like at the Oscars last year.
Comme pour les Oscars l'année dernière.
Well, I have to say that even though my character says that.
Je dois dire que même si mon personnage dit que les prix ce n'est pas de l'amour.
Maybe I'm mistaken, but it definitely feels
like love.
Je me trompe
peut-être, mais je le ressens vraiment comme de l'amour.
You know, when the people who you admire
quand les gens qu'on admire
and look at you,
se tournent soudain vers vous et vous invitent à la table des gens cool, c'est assez agréable.
L'un de vos prédécesseurs, un écrivain qui a lui aussi eu le prix Pulitzer, il s'appelle Richard Russo. Écoutez ce qu'il en dit.
Things have never been the same since. One of the first persons to call me to...
Rien n'a plus été comme avant depuis. L'une des premières personnes qui m'a appelé pour me féliciter m'a dit « Eh bien, la première phrase de ta nécrologie est désormais écrite. » Ce que cela ne change pas, en revanche, c'est qu'il y a toujours l'angoisse de la page blanche quand vous vous y remettez. Et ça ne vous rend pas plus intelligent, ça ne fait pas de vous un meilleur romancier, parce que vous ne savez toujours pas comment vous y prendre, parce que ce qui a marché la dernière fois n'a presque aucune chance de marcher cette fois-ci. Quand vous gagnez ce prix ou le National Book Award, ou n'importe quel prix, vous aimez à penser que vous avez écrit un bon livre. Mais il faut aussi avoir de la chance. Et si vous avez de la chance, alors, d'une manière ou d'une autre, vous espérez que les livres qui suivront votre prix ne viendront pas apporter au juge la preuve que vous étiez un imbécile fini.
Richard Russo, c'était lors d'une soirée avec les Pulitzer dans le cadre du festival America à Vincennes en septembre dernier. Voilà, on l'entend dire un peu ce qu'a représenté ce Pulitzer pour lui. Avoir un prix ne donne pas la recette miracle ni la réponse à la question que vous soulevez dans le roman et qui se pose souvent à l'écrivain. Comment avez-vous réussi à faire cela? Parce que la réponse est évidente, écrivez-vous. En fait, ça me dépasse. Après 5 romans et un Pulitzer, maintenant, est-ce que l'écriture aussi pour vous reste un mystère?
Well, I think he's absolutely right that.
Oui, je pense qu'il a tout à fait raison.
Everything you learn about the last book.
Tout ce qu'on apprend sur le dernier livre ne sert à rien pour le prochain.
Because by definition you're trying to make
something new. Parce que par définition, on essaie de faire quelque chose de nouveau.
So I have the same challenge ahead of me
that I did
for this
book. Donc j'ai exactement les mêmes défis à affronter maintenant que ce que j'ai dû affronter pour ce livre.
Avec encore plus d'angoisse depuis ce Pulitzer.
even more anxious now? Is the Pulitzer Prize?
No, strangely, it's not.
Non, bizarrement, c'est pas le cas.
I am much harder on myself.
Je suis beaucoup plus dur avec moi-même au quotidien que ce qu'une pression extérieure peut me faire subir.
Alors, puisque l'écriture reste un mystère pour vous aussi, l'écrivain Andrew Sean Greer, comment est née l'idée de ces tribulations? On va essayer de revenir à l'origine, à la source. D'où vient Arthur Miner? Je pense que vous serez ravis de savoir que cette idée est basée sur un roman de Colette qui s'appelle Chérie. Je voulais faire une version moderne et gay de ce roman-là. Et j'ai échoué.
And after failure, you have to pick yourself
up. Et quand on a échoué, il faut se reprendre en main et faire quelque chose d'autre.
This is the novel I made after that.
Et donc voilà le roman que j'ai fait après avoir échoué.
En quoi avez-vous échoué? Je n'ai pas lu Chérie de Colette. Quelle différence?
Because her novel is so sad.
En fait, son roman est tellement triste.
And of an era.
Et c'est une autre époque. En le modernisant, en faisant une histoire homosexuelle, je n'arrivais plus à me sentir malheureux pour lui de la même manière que je me sentais malheureux pour Léa, que j'avais de la peine pour Léa. C'était une mauvaise idée. Et on voit quand même qu'il y a toujours cette question de la différence d'âge, par contre, qui est restée dans le roman.
Arthur Miner, il est d'ailleurs persuadé que les écrivains lisent les livres des autres moins par plaisir ou pour se mesurer que pour en prendre les meilleurs passages. D'où le titre de son séminaire en Allemagne, « Lire comme un vampire, écrire comme Frankenstein ». Et vous, donc, de qui vous êtes-vous inspiré pour ce roman, à part Colette? Quelle ligne, quelle prose avez-vous vampirisé? Juste elle.
Vampirisé. I stole from Nabokov.
J'ai volé des choses à Nabokov.
And from Proust.
À Proust.
And from Updike.
À John Updike.
And from Philip Roth.
Et à Philip Roth.
Et puis il y a probablement aussi une part de vous quand même, même s'il y a quelques emprunts dans l'esprit du livre à d'autres écrivains que vous chérissez, il y a peut-être une part de vous dans ce héros maladroit, mais laquelle? C'est évidemment la question qu'on se pose en lisant aussi entre les lignes. Vous marchez volontairement ou pas, en tout cas dans les pas de la plume de San Francisco, l'auteur des chroniques, Armistead Maupin, qui nous disait en mai dernier:
oui,
la plupart des œuvres de littérature sont en général un acte de vanité, de façon naturelle. Nous parlons tous de nous-mêmes, même quand je parle, quand je crée des personnages, je trouve quelque chose de moi en eux. C'est ça qui leur donne vie, en fait, si on arrive à partager quelque chose qui vient de sa propre vie. C'est raconter des histoires qui me donnent vie. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Ce qui est amusant, c'est... En fait, je m'endormais quand j'étais petit. Pour m'endormir, je me racontais une sorte de feuilleton au lit. Et je me le racontais à moi-même. Et pour m'aider à m'endormir, et tous les soirs, l'histoire continuait.
Diriez-vous aussi, comme Armistead Maupin, Andrew Sean Greer, que la littérature est toujours un récit de soi?
I think I also stole everything from Armistead.
Je crois que j'ai aussi tout volé à Armistead. Ce plaisir de raconter des histoires qu'il a, j'avais envie d'imiter ça.
Et
tous mes livres, tous les personnages, c'est moi. Mais dans celui-ci, c'est plus apparent. Parce qu'il me ressemble et qu'il se comporte comme moi. Et beaucoup de ce qui lui arrive m'est arrivé à moi. Mais pas dans les mêmes endroits et pas avec les mêmes personnes. Donc on peut avoir une impression faussée.
Homosexuel ou pas, c'est d'abord un roman d'amour sur la perte, sur l'absence, sur la peur d'être seul, ces tribulations d'Arthur Miner. Arthur, il a eu de nombreux amants, dont Robert, le poète Pulitzer, Howard, l'homme raisonnable, Freddy, le jeune homme qui va se marier avec un autre parce que Arthur n'a pas su le garder ou pas voulu le retenir et dont il va d'ailleurs fuir le mariage. Est-ce que vous pensez qu'on a, au fond, qu'un grand amour dans sa vie?
I do not think that.
Non, je ne pense pas ça.
But I do think that it is
Mais ce que je pense, c'est que c'est facile d'avoir peur et de manquer des opportunités, des occasions dans la vie. Il a une rencontre très brève avec un homme en France. C'est une rencontre très courte et ils réalisent qu'ils pourraient tomber amoureux l'un de l'autre. Et bien sûr, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait se produire, sauf que c'est impossible. Et je pense qu'on a tous vécu ce genre de moment, qu'on y ait prêté attention ou pas. Ce qui me fait penser qu'il y a toujours d'autres possibilités.
Donc l'âme sœur, peut-on passer une vie entière à courir après? Et si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on court tous après ça?
C'est
exactement la question posée par un personnage dans le livre. Elle est très en colère. Elle dit, est-ce que l'amour, c'est être frappé par la foudre devant une personne, une seule personne dans le monde? Donc ça veut dire, si on ne rencontre jamais cette personne, on est perdu? Ou est-ce que c'est la tendresse au quotidien? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais elle pose cette question avec beaucoup de colère à Arthur, qui n'a pas non plus la réponse.
Et le livre soulève une autre question parallèle. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour dans la vie? Là aussi, vous n'avez pas la réponse? Je pense que rien n'est plus important que l'amour. C'est peut-être un petit peu trop sentimental. Comment il se protège, Arthur Miner, votre personnage, d'un chagrin d'amour?
Un des défauts d'Arthur, et qui fait partie de son charme, je pense, c'est qu'un jour un poète lui a dit qu'il était comme quelqu'un qui n'avait pas de peau. C'est un poète qui dit ça. Ce sont des gens très sensibles. Ce qui veut dire qu'il est complètement vulnérable. Ce qui est très frustrant. Parce qu'il a tellement de mal, en fait, à se gérer dans le monde, à affronter le monde sans être blessé. Mais je crois qu'en fin de compte, on apprécie son ouverture. C'est quelqu'un qui est plein d'espoir, parce qu'il ne s'est jamais fabriqué la moindre armure.
Arthur Miner, ce personnage que vous avez créé et inventé, Andrew Schoen Greer, est au cœur de ces tribulations. On vous suit dans ce roman qui vient d'obtenir le prix Pulitzer. Et vous êtes notre invité jusqu'à 12h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Votre héros est gay, tout comme les héros de ses romans, à lui, qui sont des hommes qui aiment les hommes, avec cet éclat, ou au sujet de son roman raté, Swift, son ami Finlay lui dit que s'il n'est pas lu par les gays, c'est qu'il n'a pas et qu'il n'a pas de prix, c'est pas parce que c'est un mauvais écrivain, mais parce que c'est un mauvais homosexuel. Ailleurs, il y a cette critique du New York Times qui critique le livre de Arthur et qui qualifie le style de l'auteur d'une folle grandiloquence. Qu'est-ce que ça change?
Oh, I see. Well, I think it's mostly a an internal fear within Arthur.
C'est une peur intime d'Arthur et que j'ai sans doute aussi.
All of us, we write completely for ourselves.
Nous écrivons tous pour nous, pour nous-mêmes. Et c'est seulement au moment que le livre sort que nous réalisons que d'autres vont le lire. Ça semble évident aux yeux de tout le monde, mais pas pour nous. Et on se demande toujours si on a fait quelque chose de bien ou peut-être quelque chose de dangereux, de nuisible, parce qu'on ne pensait à personne d'autre au moment où on écrivait. C'est le problème d'être un écrivain narcissique.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une littérature gay? Est-ce que ça existe?
My favorite books, the things that I learn about love.
Ce que là où j'ai le plus appris sur l'amour, mes livres préférés, ce n'étaient jamais des livres d'auteurs gays. Marcel Proust, évidemment, est le meilleur. Lui était gay, mais Gabriel Garcia Marquez n'était pas le cas. J'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup de toutes sortes d'écrivains et d'avoir appliqué ces leçons à ma propre vie amoureuse. Donc je ne vois pas pourquoi d'autres ne pourraient pas lire des livres de façon aussi ouverte.
Alors, quand votre premier roman a paru, Les Confessions de Max Tivoli, en 2004, c'est John Updike que vous citiez tout à l'heure, qui l'a qualifié de « dandified style of disenchantment brought ». Je compte sur Marguerite pour m'aider à traduire ces mots. Et ça vous aurait « dandified style », ça vous aurait...
Très dandy.
Très dandy. Ça vous aurait, vous, dérangé, gêné, qu'il qualifie votre plume de folle grandiloquence?
Well, I was very worried in that book. But that was another book that I thought
J'étais très bavard dans ce livre, mais c'est encore une fois un livre dont je pensais pas du tout aux personnes qui allaient le lire. Je me suis amusée à écrire ce livre, style victorien, pas du tout drôle, pas du tout cool, mais je me suis énormément amusée d'être moi-même dans cette écriture et que John Updike l'apprécie. Et je pense que c'était parce que justement c'était pas un livre cool et qu'il était un petit peu à l'ancienne. Et c'est quelqu'un qui est comme ça. C'était merveilleux d'entendre ce commentaire-là.
Voilà, sa manière, il vous a en tout cas adoubé. Je vous propose de revenir en 1971 avec les mots de Marguerite Yourcenar. Alors, c'est pas Colette, mais c'est aussi une écrivaine française. Elle revient sur les tabous littéraires et la place qu'elle leur donne dans son écriture.
Il est bien certain qu'il s'agit là d'un sujet qui a été réservé, en quelque sorte, pour ne pas dire tabou, dans la littérature, ce qu'on appelle sérieuse, depuis des siècles. Et que par conséquent, il est assez intéressant pour le romancier moderne de le regarder en face et de tâcher de voir quelle part il joue dans la vie humaine en général. Ceci dit, il est bien certain que du moment que nous cessons d'accepter les tabous de langage et que nous regardons ce comportement comme n'importe quel autre, nous nous apercevons qu'il devient très difficile de l'étiqueter, comme il est difficile d'ailleurs d'étiqueter n'importe quoi. Par exemple, quand je regarde dans mes propres livres les personnages ayant des préférences ou des expériences de ce genre, comme vous le dites, je m'aperçois d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, qu'ils sont tous différents.
Le refus des étiquettes, l'appel à la différence, mais aussi à l'universalité. Vous pensez que votre personnage, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez bâti, imaginé, Andrew Sean Greer, est un personnage, un héros universel?
Yes, absolutely. You know, I think
oui,
it's
tout à fait.
Why I never
je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais écrit jusqu'à présent de roman avec un personnage principal homosexuel, parce que j'avais toujours peur de faire une sorte de cliché. Ça ne m'intéresse pas ni dans la réalité, ni en tant qu'écrivain.
Et
c'est ce que j'admire énormément chez Marguerite Yourcenar. C'était incroyable d'entendre sa voix.
C'est un livre qui aborde aussi la question de la langue, la question de la traduction, la question de l'importance de savoir aussi se faire comprendre. Et à propos de l'écriture d'Arthur Miner, vous dites ou vous écrivez, vous l'auteur, ou en tout cas c'est ainsi que le narrateur en parle, que sa langue de Miner est comme entachée d'erreurs, audacieuse à défaut d'être parfaite. Quel plus beau compliment peut-on faire à un auteur, à un écrivain, que de dire que son style est audacieux à défaut d'être parfait?
Well, what I always say to writers,
ce que je dis toujours aux écrivains, aux jeunes, c'est que ce que tout le monde vous dit de faire, c'est erroné, il faut s'en débarrasser. Ce qu'il faut faire, c'est s'engager complètement, parce que l'écriture, c'est ce qui est vraiment pleinement vous-même. Et on n'est pas assez bon en fait pour réussir à adapter ça. Donc c'est pour ça que les gens vous veulent toujours essayer de vous débarrasser de ça. Et je pense qu'il faut une forme d'audace. Pour se lancer dans quelque chose dans lequel on n'est pas encore tout à fait bon en fait. Donc pour réussir à écrire sans peur. Et je me souviens d'avoir écrit comme ça. Parce qu'on veut que tout le monde aime ce qu'on fait, mais c'est pas ça qui va se passer en fait. À moins de réussir à affronter et à briser ce qui est le plus faible en vous et à lui faire face.
Mais alors en fait, pourquoi on écrit? Pourquoi vous écrivez?
Why do I write? I write because
Pourquoi est-ce que j'écris ? J'écris.
It's a compulsion. I start to feel
c'est une sorte de pulsion.
Flabby. If I have not written for a few days,
si like je n'ai pas écrit pendant un certain temps, je me sens un peu tout mou, comme un sportif qui n'a pas pratiqué.
And it helps me get through the day.
Ça m'aide aussi à tout simplement affronter ma journée
a hard day, I
et
can
la traverser.
Take notes on.
Pendant une journée difficile, je prends des notes et je peux y revenir plus tard et les trouver drôles ou trouver des petits éléments de sagesse ou des petits détails qui me permettent en fait de survivre à ma semaine.
C'est aussi un roman sur le temps qui passe. Arthur a la capacité de quitter une pièce tout en y restant, écrivez-vous Andrew Sean Greer. Et c'est une belle image. Est-ce que les souvenirs, le passé, occupent aussi une place importante dans votre vie, dans votre imaginaire?
Well, I was thinking about that, walking around Paris,
je pensais à ça en me promenant à Paris, où je suis venue de nombreuses fois, et je croise des gens qui me disent qu'ils vivent complètement dans le présent. En général, ce sont des Californiens. Et je ne comprends pas de quoi ils parlent. Parce que moi, je me promène le long de la Seine, et j'ai 5 souvenirs différents qui me reviennent de moi, plus jeune, à différents moments, différentes météos, au même endroit. Parfois, c'est désagréable.
I can't imagine living without it.
Mais je ne m'imagine pas vivre sans ça. Ce serait une vie tellement vide.
Vous travaillez aussi le thème du génie, de ce qui est diffus et de ce que l'on a en soi, ce potentiel qu'on peut aussi transformer. Le travail, les habitudes, les mots, tout ça permet aussi d'exprimer quelque chose qu'on peut avoir au fond de soi. Vous pensez que ça doit être dur, vous, de vivre avec un génie ?
Well, I've never lived with a genius, but I feel like
je n'ai jamais vécu avec un génie, mais je pense en avoir rencontré.
With my best friends,
mais parmi mes meilleurs amis.
My very best friend, who's a writer, I go swimming with him every morning.
J'ai un de mes meilleurs amis qui est écrivain. Je vais nager avec lui tous les matins et nous parlons de livres. Et c'est très intimidant.
But he actually is not conscious of being a genius.
Mais en fait, lui n'a pas conscience d'être un génie.
So him,
parce que ça lui vient tellement naturellement. Et il a l'air de penser que moi aussi, ça me vient naturellement d'écrire, d'avoir des idées.
But
et ça c'est une forme de soutien. Mais je ne vis pas avec lui.
Et vous n'aimeriez pas?
You wouldn't like that?
No, I think it would be.
Non, je pense que.
Unpleasant because you would,
ce ne serait pas très agréable
book,
parce que comme dans le livre on aurait envie de permettre au génie de se réaliser et on vivrait de lui un petit peu comme on profite de l'argent et si le génie n'advient pas il y aurait une forme de panique en fait et j'ai assez de problèmes à gérer comme ça.
Vous l'avez évoqué sur le premier jet de ce roman inspiré du Chéri de Colette, le sentiment que la première tentative d'adaptation était trop sombre, trop angoissante. Et on sent que vous voulez, tout au fil de ces pages et de ces lignes, faire entrer de la joie, du bonheur, quelque chose de plus positif. Comme si c'était pas le rôle de la littérature de rajouter à l'anxiété du monde. Il y a d'ailleurs de nombreuses situations assez cocasses dans le roman, jusqu'à la scène d'ouverture où Arthur Mineur est dans un hall, il attend qu'on vienne le chercher et il est là, il regarde l'heure figée de la pendule et la femme qui vient le chercher pense qu'en fait il n'est pas un homme mais une femme, elle cherche une Madame Arthur. Elle interroge tout le monde dans ce hall pour savoir où est Madame Arthur qui doit venir interroger un grand écrivain et jamais où elle met beaucoup de temps, plus d'une demi-heure à arriver jusqu'à lui et lui reste là, patiemment, à attendre, à subir. Nombreuses situations drôles, cocasses dans ce roman. Sur le rire, je vous propose d'écouter encore un témoignage, celui de l'écrivain italien Umberto Eco, puisque vous passez une partie de votre vie, vous, en Toscane. Le rire comme une nécessité, comme une manière de transmettre le bien.
Lorsque vous allez voir un film comique et vous êtes seul, vous avez de la difficulté à rire. Vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous pour lui donner un coup, un clin d'œil et rire ensemble. C'est la raison par laquelle, lorsqu'on nous raconte une histoire drôle, on prouve l'exigence de l'aller raconter quelqu'un d'autre. On ne peut pas rire dans la solitude. Oui, il nous arrive parfois, à la nuit, on est en train de lire une chose comique, on éclate de rire, mais il arrive une fois. J'en souviens que lorsque je lisais Comma 22 de Heller, Je réveillais ma femme chaque 5 minutes pour lui lire une page, parce que je ne pouvais pas me réjouir d'un livre si comique si je ne pouvais pas la communiquer à quelqu'un d'autre.
On ne peut pas rire dans la solitude, dit Umberto Eco, comme écrivain. Vous mettez le rire en partage.
But I think it's why the novel is not written in
first person. Je pense que c'est pour ça que le roman n'est pas écrit à la première personne. Parce que je ne crois pas qu'Arthur aurait trouvé tout ça très drôle. C'est un narrateur qui nous parle d'Arthur et qui partage ça avec nous, et c'est la seule manière en fait de rendre ces choses-là amusantes. Heureusement, j'ai compris ça très tôt. Et il y a des gens qui m'écrivent tout le temps sur Twitter et qui me disent qu'ils réveillent leurs compagnons pour leur raconter quelque chose qu'ils ont lu ou qu'ils éclatent de rire dans le métro et se sentent un peu bêtes, mais en même temps aussi très enthousiaste de faire cette expérience. Je pense que c'est bizarre de rire tout seul avec un livre, mais j'imagine, en tout cas, que ça me rend très heureux que ça se produise avec ce livre.
Mais d'ailleurs, depuis le début de cet entretien, vous avez, vous, le sourire aux lèvres. Est-ce que quand vous écrivez, vous riez parfois de ce que vous écrivez? Est-ce que vous pensez à la réaction que ça va susciter chez votre lecteur? Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, votre premier lecteur?
I think it's so embarrassing to admit that
I do laugh. Je pense que c'est extrêmement gênant de l'admettre, mais oui, je ris en écrivant.
But other writers cry when they write.
Mais il y a aussi des auteurs qui pleurent en écrivant.
Appropriate. Of course, you have to be careful.
Je pense que c'est normal. Il faut. En général, les choses qui me font rire moi ne finissent pas forcément dans le livre. Il faut faire attention parce que ce sont des choses qui me sont trop spécifiques. Mais en écrivant ce livre, j'ai vraiment suivi mon propre plaisir. Ce qui me procurait de la joie à moi.
Oui, et c'est pas un livre avec des grosses blagues toutes les lignes. Hein. Il faut quand même le préciser. Andrew Schoengreer, l'humour est très fin et distillé tout au long du livre à travers ce personnage qui est éminemment maladroit, touchant, qui doute en permanence, et ça crée des situations qui sont légères et aussi très amusante pour le lecteur. Pour terminer, est-ce que comme lui, vous pensez que la comédie est finalement le seul genre littéraire à regarder la vérité droit dans les yeux?
Pour moi, ce livre, pas dans sa version sombre, la première, mais dans son approche plus comique, ça a été la seule manière dont je pouvais réussir à parler de l'amour, du vieillissement, de la vie, beaucoup plus près de la vérité que dans tout ce que j'ai écrit d'autre. En riant, j'ai réussi à dépasser toutes ces peurs et ces aspects extrêmement sombres. C'est un livre triste et qui prend naissance dans des aspects tristes, mais tout le comique, en fait, est toujours lié à une certaine tristesse.
Merci, Marguerite Capelle, pour votre traduction. Un grand merci à vous, Andrew Schoengreer, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous serez demain soir à la Maison de la Poésie à Paris pour y présenter ce roman, Les Tribulations d'Arthur Mineur, publié chez Jacqueline Chambon, prix Pulitzer 2018. Encore bravo.